Jean, par contre, Jean reste au fond. Jean reste au fond. Par contre, René et Alice, ça fait vraiment plaisir de vous avoir sur les meilleures chaises de l'église.
Merci.
Si cette scène n'était pas humoristique, est-ce que cette chaîne vous choquerait si réellement on faisait comme ça dimanche après dimanche? Non, pas pour toi, Kevin. J'espère que vous auriez envie de me traiter d'hypocrite si je me perds. Si, voilà, on se permettait comme ça de mettre en avant certains et de dire est-ce que Christine, tu peux encore reculer un peu plus, s'il te plaît? J'espère que ça. Et pourquoi ça choque? Pourquoi une telle attitude n'honore pas Dieu, si vraiment c'était notre manière de faire? Je vous invite à lire Jacques, donc les 13 premiers versets du chapitre 2. Jacques 2. C'est à la page, si vous voulez, dans les Bibles, second 21 qui a à disposition, c'est à la page 797. Donc, Bible, donc version second 21, les 13 premiers versets de Jacques 2. Jacques dit: « Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des vêtements somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. » Bon, j'ai pris personne pour exemple pour le pauvre avec les habits crasseux. « Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assis-toi à cette place d'honneur » ou que vous disiez au pauvre tiens-toi debout » ou bien « Assis-toi par terre, à mes pieds » ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. Verset 5. « Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches et héritiers d'un royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent dans les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme coupable. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pèche sur un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « Tu ne commettras pas de meurtre ». Si donc tu ne commets pas d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Verset 12. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté. Car le jugement est sans compassion pour celui qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Jusqu'à là la lecture. Jacques, l'apôtre Jacques, avait dit à la fin du chapitre, avant on ne l'avait pas dit, mais que la religion pure, qu'il existait une religion pure, sans tâche, qui consistait à s'occuper des veuves, des orphelins, ne pas se laisser souiller du monde. Et là, Jacques, il décrit d'une manière supplémentaire à quoi ressemble une foi, une religion pure et sans tâche, pour reprendre ces termes. Et donc vous l'avez vu, premier verset, « Que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme, qu'elle ne se nourrisse d'aucun favoritisme, qu'elle ne conduise à aucun favoritisme. » Alors, dit comme ça, nous, comme les premiers lecteurs de l'épître de Jacques, auraient dit « Moi, faire du favoritisme, non, jamais, ça m'arrive jamais. » Et donc c'est pour ça que Jacques, dans sa pédagogie, pour être sûr que chacun se sente concerné, il raconte cette histoire, qui est une histoire a priori probable, d'un homme qui rentre et qu'on invite au premier rang, et d'un autre qu'on lui dit « Recule » ou alors « Mets-toi par terre. » Cette scène fictive, elle est un peu caricaturale, mais elle a la manière de nous interpeller et la manière de nous remettre en cause. Définition du favoritisme d'après le dictionnaire, je ne me souviens plus si c'était le petit Robert ou le Larousse, peu importe. Toute action, toute parole, toute attitude qui tend à préférer quelqu'un à quelqu'un d'autre et lui accorder des faveurs injustes ou illégales. Comme celle d'être sur la meilleure chaise de l'église. Celle-là, elle a un truc en plus. Peut-être que dans l'église, nous n'accordons pas la meilleure chaise, nous n'accordons pas des places d'honneur à certains, au fond contre la vitrine ou devant. Peut-être que nous sommes nous ne faisons pas sa messe, pour autant que nous ne faisons jamais de favoritisme dans l'Église. Peut-être pas de manière aussi caricaturale que cette petite scène fictive, mais dans notre Église, et je m'inclus évidemment le premier, combien il peut être facile aussi des fois d'aller seulement vers certaines personnes, d'accueillir plus certaines personnes que d'autres, d'accorder plus d'importance ou d'estimer plus telle personne que d'autres. Voilà. On ne parle pas forcément de faire venir au premier rang ou de repousser, mais de manière plus subtile. Et je pense qu'il est difficile de ne pas tomber dans ce piège. Voilà, notre péché, on est pécheur et c'est un piège dans lequel on peut être eu. Et je vous demande moi-même pardon si d'une manière ou d'une autre, j'ai peut-être déjà effectivement fait preuve de favoritisme ou je ne sais quoi, mais je vous demande pardon si c'est le cas. Comment réussir à ne pas faire de favoritisme, à être juste devant Dieu? Comment? Je me souviens d'un ami pasteur qui nous disait que dans son église, il avait une personne millionnaire, véritablement. Et il disait, sur le ton de l'humour, mais c'est difficile lors d'une assemblée générale, quand cette personne s'exprime, quand cette personne donne son avis et que tu sais sa situation, et c'est dur d'accorder la même voix à cette personne qu'à quelqu'un normal. Il le disait, hein, il avait l'honnêteté de dire qu'à chaque fois dans sa tête, il y avait une une lutte. Comment faire pour ne pas tomber dans ce piège-là? Au sein de l'Église, comment ne pas tomber dans ce piège-là au sein de l'Église? Et comment ne pas tomber dans ce piège-là aussi à l'extérieur de l'Église, là où nous sommes appelés à être sel et lumière? Là aussi, hors dehors de l'Église, il nous faut ne pas faire de favoritisme. Et là, les domaines d'application sont très grands. On pourrait simplement mentionner, par exemple, sur la question de l'accueil des réfugiés, de l'accueil de l'étranger. On a eu Fatemé pendant 2 ans avec nous, mais voilà, c'est une réalité. Est-ce que ces personnes-là ont moins de valeur que d'autres? Est-ce que certaines personnes dans la société sont à préférer que d'autres? Tous à l'image de Dieu. Comment être dans l'Église et en dehors de l'Église? Comment réussir à ne pas à être juste et à ne pas faire du favoritisme? Et verset 4, Jacques le dit, à ne pas devenir des juges au mauvais raisonnement. Comment ne pas être des juges au mauvais raisonnement? Et Jacques va donner 3 raisons, 3 bons raisonnements, 3 bonnes raisons pour que notre foi soit libre de tout favoritisme, dans l'Église et en dehors de l'Église. 3 raisons, et ce sera mes 3 points. Première raison, ne faisons pas de favoritisme, car Dieu lui-même n'en fait pas. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et donc en restant dans la continuité de son histoire avec le pauvre et le riche dans l'Église et le changement de place, Jacques montre le paradoxe pour les chrétiens de l'époque, le paradoxe de préférer le riche au pauvre. Et il le dit verset 5, « Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume, comme il l'a promis à ceux qu'il aime ?» Verset 5. Et ouais, Dieu il a choisi celui que tu es en train de dire « Mets-toi par terre !» Et pire que ça, versets 6 et 7, « Vous êtes en train de favoriser ceux qui vous traînent aux tribunaux et qui insultent vos noms. » Vous êtes en train de faire exactement l'inverse de ce qu'il faut faire en faisant ça. C'est un peu comme les bricoleurs, quand des fois il faut tourner le tournevis, tu vois, il faut arriver à tourner. En fait, tu aurais, je sais pas, t'es sous la machine à laver et tu sais plus dans quel sens il faut tourner et t'essaies de visser. En fait, tu dévisses. Tu fais l'inverse de ce que tu veux faire et tu comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Tu es en train de faire l'inverse de ce que tu veux faire. L'inverse de ce qui est bon de faire. Dieu a choisi les pauvres, dit Jacques, mais les pauvres. Non, les pauvres en sous, non, les pauvres aux yeux du monde. Vous l'avez vu qu'il précise? Les pauvres aux yeux du monde. Les pauvres en esprit, dira également Jésus dans les Béatitudes. Des pauvres, mais rendus riches dans la foi. Et Dieu nous rappelle que voilà, au-delà de cette image du riche et du pauvre, mais que la vraie richesse ne se mesure pas à notre portefeuille, à notre carrière, notre culture, notre épanouissement personnel, notre voiture, ni tout ce que le monde peut mettre comme valeur ultime. Si tu veux comparer la richesse ici-bas à la richesse que se trouve en Christ, c'est comme si tu compares la lumière de ce spot à la lumière du soleil dont on a parlé tout à l'heure. n'y a rien à voir, c'est incomparable. C'est incomparable. Peu importe notre richesse, notre pauvreté au sens des sous, c'est pas ça qui définit ce que Dieu nous dit qu'on est et qu'il nous promet. Donc ne faisons ni favoritisme, ni envers les pauvres, ni envers les riches. Ça sera également un piège de favoriser l'un sur l'autre. Ne faisons ni de favoritisme envers les pauvres ou les riches, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Voilà la première raison qu'il nous dit. Ce passage nous le montre, mais dans bien d'autres dans les Écritures. Éphésiens 6, Romains 2, Colossiens 3, devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. On retrouve ça encore et encore dans la Bible. Galates 3, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Les barrières s'abolissent. Nous, les hommes, on aime mettre des barrières. Devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Apocalypse 5, les gens disent, tu as été offert en sacrifice en parlant à Jésus, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. De Madagascar au Mexique, au Pays de Galles, à l'Argentine et à la France. J'ai oublié personne, les États-Unis, si je m'embarque là-dedans, je vais oublier quelqu'un. Mais vous voyez ce que je veux dire. De toute tribu, de toute langue. Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc, si Dieu lui-même ne fait pas de favoritisme, comment nous, on oserait en faire? Voilà la première raison que Jacques donne. Dieu ne fait ni favoritisme, ni pour les riches, ni contre les riches, ni pour les pauvres, ni contre les pauvres, ni pour les grands, les petits, les noirs, les blancs, ni contre, ni pour. Dieu rachète et veut redonner vie à toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. On l'a dit tout à l'heure, vous connaissez Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Pas que ceux qui sont au premier rang. Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque devienne, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Ne faisons pas de favoritisme, Dieu n'en fait pas. Voilà la première raison. La deuxième raison, on la voit dans les versets 8 à 11, c'est de ne pas faire du favoritisme, car simplement, Dieu nous le demande. Qu'on soit d'accord ou pas, Dieu nous demande de ne pas faire de favoritisme. Mais en soi, sa parole suffit. Jacques appelle ça la loi royale, celle d'aimer son prochain, qui qu'il soit. La loi royale, la loi parfaite. La loi qui nous a été enseignée par le roi des rois, Jésus. Vous connaissez ce passage de ce pharisien qui vient tester Jésus et lui dire alors, quels sont les commandements les plus importants dans la loi ? Matthieu 22. Les deux commandements ? Le premier, aimer Dieu de tout son cœur, son âme, sa force, sa pensée. Et le deuxième commandement, d'aimer son prochain comme toi-même. Et cette loi royale n'est pas périmée. Ce n'est pas parce qu'on est sous la grâce que la loi est périmée. Elle ne peut plus nous sauver, mais elle n'est pas périmée pour autant. Elle nous parle tout autant de Dieu, de qui il est. Et Jacques précise, nous dit qu'il nous faut aimer notre prochain, mais sans choisir qui est notre prochain. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut se faire avoir. Sans choisir qui est le prochain qu'on a envie d'aimer et qui est le prochain qu'on a moins envie d'aimer. Envers qui on a envie d'être le bon samaritain et qui on n'a pas envie d'être le bon samaritain. Jésus dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, que méritez-vous? Vous n'êtes pas mieux que les gens de l'extérieur. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment. Jacques nous avertit que si on aime un prochain, voilà, cette partie-là, mais qu'on n'aime pas celle-là, alors nous faisons du favoritisme et nous commettons un péché. Le terme est noir sur blanc, vous l'avez lu. Et la loi nous dénonce comme coupable, versets 8 et 9. Voilà, j'aime déjà pas mal de monde, je suis déjà pas mal au-dessus de la moyenne. Mais Jacques est sévère et dit à tout titre, si tu obéis à toute la loi, mais tu pêches une fois, ça suffit à te rendre coupable vis-à-vis de l'ensemble. Et vous voyez l'exemple un peu criant que Jacques donne, si tu dis qu'il faut pas faire, tu veux pas faire d'adultère, en même temps tu fais un meurtre à côté, évidemment que ça te rend coupable. Si tu dis que tu aimes tous tes prochains, mais tu fais du favoritisme envers certains, évidemment que ça te rend coupable. Si tu payes tes impôts, mais que tu roules sans permis de conduire, évidemment, tu ne vas pas dire au policier « Oui, j'ai pas mon permis de conduire, mais attends, eh oh, je paye mes impôts. » Déjà pas mal. Non. Dieu est saint, on l'a vu dans le sanctuaire. Dieu est saint, trois fois saint. Et si on est coupable une fois, c'est comme si on était coupable devant tout. Je vous mets au défi lors du prochain contrôle routier de dire que vous n'avez pas votre permis et que vous payez vos impôts. Vous verrez ce que le policier vous dit. Et les gens dans notre société se considèrent justes devant Dieu parce qu'ils pensent qu'ils font un certain nombre de trucs bien et que ça va compenser ce qu'ils font de pas bien. Qu'on peut aimer certains prochains mais faire du favoritisme, que ce n'est pas grave. Non, Dieu est trop saint pour cela. On ne peut pas choisir le niveau d'obéissance qui nous convient. Deuxième raison donc, on l'a vu, ne faisons pas de favoritisme, car Dieu nous le demande, et sa parole suffit. D'aimer notre prochain, qui qu'il soit. La troisième et dernière raison de ne pas faire du favoritisme se trouve dans Christ. En Christ et dans la liberté qu'il nous offre de le faire. On n'a plus besoin de faire de favoritisme, de nous attirer les faveurs de telle ou telle personne, parce que notre valeur est en Christ. Et donc je n'ai plus besoin d'essayer de m'attirer, de me mettre telle ou telle personne, de me faire mousser. Ma valeur est ailleurs. Désolé René. Notre valeur est ailleurs. Jacques conclut, donc les versets 12 et 13, c'est ma dernière partie. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté. Parlez et agissez. Parlez et agissez. Si vous dites seulement à votre femme, à votre conjoint que vous l'aimez, mais qu'aucun acte ne le démontre, comment vous pouvez dire « je t'aime » ? Parlez et agissez. Et c'est valable dans notre couple, dans nos couples, dans nos relations, dans nos amis, mais c'est valable envers nos prochains. Si je dis qu'à l'église, et c'est là où ça nous interpelle, si on dit à l'église, « Oh, à l'église se trouvent mes frères, mes sœurs, mes amis, on est une famille. » On dit cela. Mais qu'en même temps, on ne manifeste aucun intérêt à voir nos frères, nos amis, qu'on est capable de laisser dans la panade quelqu'un qu'on dit être de notre famille, est-ce qu'on est cohérent ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est là où ça nous concerne, et c'est là où ça nous interpelle. En parole et en acte. Et je suis moi-même loin d'être irréprochable là-dessus. Mais je vois ce que la parole de Dieu m'encourage à faire. C'est à la lumière de nos actes et de nos paroles que sera démontré ou non notre amour envers notre prochain. Et nous serons alors jugés par une loi de liberté. Une loi de liberté. Verset 12. Quelle est cette loi de liberté ? On en a déjà parlé, la loi royale, la loi parfaite, c'est celle d'aimer son Dieu de tout son cœur, son âme et son prochain comme soi-même. Une loi à obéir, ce n'est pas une option. C'est une loi. Et dans ces cas-là, si on la transgresse, alors le jugement est sur nous. C'est ce qu'a dit le verset 13. Mais c'est une loi de liberté. Vous l'avez vu, c'est pas une loi de... Pourquoi ce n'est pas une loi de sanction, une loi, mais c'est une loi de liberté ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pardon ?
C'est volontaire.
C'est volontaire. Et surtout, c'est que maintenant, effectivement, tu as raison, nous l'observons non pas par contrainte, non pas pour mériter quelque chose, non pas pour nous acheter la faveur de Dieu, non pas comme des esclaves, mais nous voulons le faire librement, parce que nous en avons envie, parce que nous avons été adoptés, et que notre valeur est en Christ, et que notre valeur ne dépend plus de ça. Et en cela, nous devenons libres de pouvoir, nous pouvons être libérés de la tentation de faire du favoritisme. Parce qu'en Christ, nous avons tout trouvé. Christ, par sa mort, sa résurrection, nous a libérés de cette quête de devoir nous en sortir par nous-mêmes, de devoir nous attirer les faveurs de telle ou telle personne. Dieu nous a donné une nouvelle vie en Christ, une nouvelle intelligence, un nouveau cœur, un nouveau désir. Alors dans ces cas-là, c'est lui qui nous donne la force de lui obéir et c'est lui qui nous pardonne, qui expie nos péchés lorsque nous chutons. Et dans ce sens-là, verset 13, vous l'avez lu, la compassion triomphe du jugement. Quelle bonne nouvelle. Et là, on est dans Lévitique 16 qu'on a lu tout à l'heure. La compassion triomphe du jugement. En Jésus, nous trouvons la force, nous trouvons la raison, nous trouvons la paix, nous trouvons l'assurance, nous trouvons la liberté de vivre dans son amour et donc de ne pas avoir à faire de favoritisme. Ça reste une loi qui nous dit ce qui est bon de faire, mais ce n'est plus une loi qui nous condamne, parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8. Ne soyons pas donc accablés. J'espère, voilà, Jacques, il est assez direct, assez punchy. Mais ne soyons pas accablés, mais encouragés par cela, car nous n'avons plus besoin de nous attirer la faveur de telle ou telle personne. Nous avons tout en Christ. C'était la troisième raison. Moment de conclure cette courte prédication. Je ne veux rien faire d'autre que rappeler ce que l'on a vu dans ces chapitres, dans ce passage de Jacques. De ne pas faire de favoritisme, vous en souvenez des trois raisons, de ne faire pas favoritisme parce que Dieu n'en fait pas et qu'il a aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ne faisons pas de favoritisme car Dieu nous le demande. Il nous le demande, c'est sa parole suffit et c'est quelque chose qui est bon de faire. Et d'aimer notre prochain, qui qu'il soit. Et ne faisons pas de favoritisme, car Dieu nous rend libres en Christ de pouvoir le faire, de ne plus avoir à chercher une valeur ailleurs qu'en lui. Donc dans ces cas-là, les applications pratiques, chers frères et sœurs, on en a déjà mentionné certains, mais elles sont nombreuses dans l'Église, entre nous, et en dehors de l'Église, là où nous sommes appelés à être sel et lumière. Dans l'Église, soyons vigilants à la manière dont nous accordons de l'importance les uns aux autres. Et s'il nous faut demander pardon les uns les autres, faisons-le par amour fraternel et par obéissance, parce que Dieu nous le demande. Et hors de l'Église, donc là aussi, soyons des témoins, soyons sel et lumière, et aimons nos prochains, sans choisir qui l'est et qui ne l'est pas. Ainsi, où que nous soyons, quoi que nous fassions, avec qui nous soyons, qu'en toute chose, que notre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Amen. Nous voulons prier avant de prendre un cantique qui justement dit cela. Éternel, merci parce que tu nous as aimés d'un amour égal, tu as aimé tout le monde, toute créature, et tu as aimé des hommes et des femmes de toute tribu, de toute nation, de toute langue. Et Seigneur, quand on voit l'œuvre rédemptrice, l'amour que tu as manifesté envers le monde entier, comment nous, en retour, oserions-nous préférer telle ou telle personne, accorder plus d'importance, plus de valeur à telle ou telle personne? Seigneur, nous voulons t'imiter, nous voulons refléter ta sainteté et ta justice. Nous voulons te demander pardon également quand nous ne sommes pas parfaits et quand nous faisons preuve de favoritisme ou d'injustice. Nous voulons te demander pardon, mais nous savons qu'encore une fois que même ce péché-là ne peut nous éloigner de toi, parce qu'en Jésus-Christ il n'y a plus aucune condamnation et que toutes choses ont été expiées. Merci par ton Fils, par ton Esprit de nous équiper, de nous fortifier et de nous donner, Seigneur, d'avoir une foi libre de tout favoritisme et d'avoir un amour envers nos prochains, un amour qui t'honore et qui te rend gloire. C'est dans le nom de Seigneur Jésus que nous te prions. Amen. Amen.